Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec une académicienne.
Pour ce nouveau portrait d'En habit vert, le studio des podcasts s'est déplacé au bout de la ligne 11 du métro parisien, direction Les Lilas. C'est ici, et plus précisément dans l'atelier de la peintre Nina Childress, que nous avons posé nos micros. Élue à l'Académie des Beaux-Arts en 2024, l'artiste s'est imposée avec une œuvre nourrie de pop culture. Des portraits d'icônes féminines, avec une place toute particulière, disons-le, pour Sylvie Vartan, mais aussi des clins d'œil au punk ou aux images télévisuelles. Mais vous allez l'entendre, ce ne sont pas tant les sujets qui intéressent Nina Childress que la peinture elle-même. Ses effets, ses matières, ses techniques, parfois inattendues, comme les pigments fluorescents ou phosphorescents. Au milieu de ses toiles et de ses pots de pinceau, dans une atmosphère imprégnée d'une odeur enivrante de solvant, l'artiste s'est confié sur son parcours, le temps qu'il lui a fallu pour trouver sa voie et vivre de sa peinture, ses obsessions, et puis cette fameuse magie de la peinture qu'elle évoque souvent. Nina Childress est la 15e invitée d'En habit vert. Vous allez bien ? Oui. Merci beaucoup.
Non, je vous en prie, entrez.
Nina Childress, merci beaucoup de nous accueillir dans votre atelier. Est-ce que vous pourriez nous le décrire un petit peu ?
J'ai à peu près 100 mètres carrés, c'est pas énorme. Hein. C'est une grande pièce, mais avec des petits recoins. Il y a un petit coin stockage, il y a une salle de bain en cuisine, et il y a un grand espace pour travailler. Et j'ai même une mezzanine pour faire dodo si j'ai pas envie de rentrer chez moi. Et puis au-dessus, parce que vous ne voyez pas, il faudrait qu'on monte, mais là, il y a un escalier. Et au-dessus, il y a la terrasse qui fait tout le dessus. Voilà, où je ne vais jamais. Où il n'y a pas une plante, il n'y a rien. Parfois, j'y vais prendre l'air ou manger ma salade, mais j'en profite pas beaucoup, hélas.
Ça fait longtemps que vous peignez dedans ?
Je l'ai depuis 2008. Mais pendant longtemps, je n'ai pas eu d'atelier séparé de mon logement. Donc, quand je l'ai eu, ça a été vraiment un très, très grand bonheur, cet atelier. Je l'adore. Je pense que je resterai là toujours. Bon, c'est vraiment un lieu vraiment où j'aime être.
Vous vous sentez bien.
Ouais.
Alors, les auditeurs le voient pas, mais on est entouré de tableaux. Est-ce que ce sont ceux sur lesquels vous travaillez en ce moment ? Ce sont des inédits ?
Je ne poste pas, enfin, je ne mets pas d'images de tableaux qui n'ont pas été exposés. C'est ce que j'appelle des tableaux inédits, un peu comme, je sais pas, comme un manuscrit. Mais bon, je peux les décrire. En fait, il y a un grand tableau qui attend vraiment d'être fini de Catherine Deneuve, très jeune, sur un fond rouge. Voilà, c'est plutôt fait avec des pigments fluorescents. Et puis, les petits tableaux, c'est plutôt les derniers que j'ai faits, là, qui sont tous, je pense, terminés. C'est avec des pigments caméléons, donc qui changent de couleur quand on se déplace. Et plus je travaille avec, plus je... J'ai des idées, par exemple, voyez celui qui est tout en haut, là, si on s'approche, la fille qui est tout en haut, vous voyez les rayures, bon, là, on voit bien, c'est rose et vert, enfin, rouge et vert, oui. Même quand on est plus loin.
C'est un portrait, donc on voit une...
Voilà, mais il y a un fond. Et, voilà, et quand on est de face, c'est presque un violet uni, enfin, c'est deux violets. Et quand on,
ouais.
Quand on va sur le côté, c'est rouge et vert. Et ce qui change aussi beaucoup, là, c'est les yeux, en fait, parce que j'ai laissé en réserve les yeux de cette femme, et sur le côté, elle a des yeux de couleurs différentes, un vert et un rouge, et de face, elle a des yeux violets. Et voilà, il faut savoir que c'est Karen Black, dont c'est une actrice du cinéma américain des années 70-80, qui est assez culte.
C'est qui l'icône, la femme que vous avez le plus peinte?
C'est Sylvie Vartan. Ouais, on peut parler de Sylvie Vartan après.
On va en reparler juste après, oui. On va peut-être s'installer sur la petite table à côté pour poursuivre l'interview. Alors, la première fois que je vous ai vue, Nina Childress, c'était le jour de votre installation à l'Académie des Beaux-Arts. C'était en juin 2025, il y a à peu près un an. Et la tenue que vous portiez ce jour est assez inoubliable. Il y a d'abord le costume d'académicienne que vous portiez, très chic, tout bleu marine et vert. Le chignon aussi assez spectaculaire que vous aviez fait ce jour. Et puis, votre épée, bien sûr, qui n'était pas une épée, mais une baguette magique. Comment vous avez eu cette idée de venir avec une baguette magique le jour de la réception dans votre académie aux Beaux-Arts?
Déjà, c'était clair pour moi que ça pourrait pas être une épée, parce que je voulais pas d'un instrument de guerre ou de violence. J'ai vraiment le souvenir, moi j'ai élevé deux petits garçons qui avaient une sorte de rapport avec des épées en bois, enfin des choses comme ça, un truc très martial et viril, et je me suis dit non, je veux pas de ce symbole-là. Donc j'ai cherché un objet qui pourrait être long et remplacer un peu une épée. Pendant un temps, j'ai songé à faire une règle, parce que je suis quelqu'un d'assez... j'aime bien mesurer, j'aime bien la symétrie, j'aime bien ordonner, etc. Donc je me dis, je vais faire juste une règle de 40 cm avec bien les chiffres, mais un peu comme le mètre étalon, voilà, quelque chose qui est avec un beau métal. Et après, je me suis dit, non, ça quand même, c'est un petit peu triste. Et puis, je me suis souvenue d'une phrase que j'emploie beaucoup pour parler de la peinture. Je parle de la magie de la peinture, parce que pour moi, quand je peins, il y a quelque chose, parfois, bon, c'est un peu exagéré de dire ça, mais vraiment quelque chose de magique qui se passe, et l'image prend forme, et tout d'un coup, j'ai cette impression-là que c'est magique. Où je vais dire, par exemple, à mes étudiants qui ne savent pas comment faire, je vais leur dire, écoute, tu fais ça, puis tu verras, la magie de la peinture, ça va opérer, et puis il va se passer quelque chose. Bon. Et donc, cette idée de baguette magique, la baguette magique, ça serait bien. Et là, j'ai pensé à mon ami Jean-Luc Vernat, qui est un artiste plasticien, qui fait aussi du cabaret, qui chante, enfin, voilà, qui est une personne avec beaucoup de casquettes, mais qui est aussi connu pour ses baguettes magiques, souvent monumentales.
Géantes, ouais.
Voilà, il en a une près du pavillon de l'Arsenal, qui est un monument dédié à la mémoire des personnes LGBTQ+, persécutées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je lui ai demandé, Jean-Luc, est-ce que tu ferais la baguette magique pour mon installation?
Il a dit oui.
Il m'a dit oui, bien sûr. T'es OK pour la dessiner pour moi? Et je lui ai dit oui, mais je voudrais que ça soit une baguette magique un peu spéciale, parce que je voudrais qu'elle s'allume, et qu'elle s'allume avec des LED ultraviolets, parce que mon habit va être brodé avec des fils phosphorescents. Et du coup, les ultraviolets vont pouvoir recharger les fils phosphorescents. Et comme ça, quand je serai dans le noir en habit, mes olives blanches brilleront dans la nuit. Ce qui n'arrive jamais, parce qu'on n'est jamais dans le noir avec son habit. Mais bon, voilà, c'était mon idée.
Baguette magique, on peut aussi penser à la fée Clochette, Marraine la Bonne Fée. Puis ça peut aussi évoquer la figure de la sorcière. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces deux figures, dans les deux, une plus qu'une autre?
Alors, ça va plutôt être pour moi, si c'est une fée connue, ça va être Glinda of Oz dans Le Magicien d'Oz. Parce que quand j'étais petite, la femme de mon père, la seconde épouse de mon père, m'a, disons, apprivoisée en me lisant à haute voix les 12 volumes de la saga Oz, qui est très très grande en fait, parce qu'il n'y a pas que Le Magicien d'Oz, après ça continue, il y a au moins 12 livres, et elle me les a tous lus à haute voix entre l'âge de 10 et 12-13 ans. J'adorais cette saga. Évidemment, on connaît dans le film Magicien d'Oz l'image de la fée Glinda avec sa baguette, et ça serait plutôt elle.
Spontanément, vous pensez à cette figure?
Ah oui, et pas du tout la sorcière, non. Oh là là.
Vous avez grandi, vous, dans les années 70-80, un peu en âge d'or de la pop culture. Et cette pop culture, elle est très éclectique. Elle va de Dallas à Claude François. Et alors, je fais exprès d'utiliser deux références, une américaine, une française, parce que vous avez grandi entre les deux pays, Nina Childress. Votre père est texan et votre mère est normande.
Oui, mais enfin, j'ai quand même vécu beaucoup plus en France, parce que je suis arrivée à l'âge de 5 ans. Et après, je n'allais aux États-Unis plus que pendant les vacances scolaires, pendant les grandes vacances surtout. Voilà. Donc, moi, je me considère comme française. J'ai un petit accent français quand je parle en anglais. Je parle un petit peu moins bien que le français. Voilà. La pop culture, c'est très vaste. Moi, j'inclurais aussi le cinéma, j'inclurais la télévision, j'inclurais... Parce que finalement, ce qui m'a toujours plus frappé, ce sont les images. Et c'est effectivement un âge d'or, enfin pour moi, et un âge aussi de grande évolution, parce que entre le Technicolor, la télévision, la vidéo, voilà, comment les images ont été transformées pendant, voilà, entre les années 50 et, pour faire large, 60, je suis née en 61, donc entre les années 60 et 2000, c'est incroyable. Je pense que les jeunes qui sont nés à l'ère du digital et du tout numérique ne se doutent pas de toutes les différentes textures d'images qu'il y avait avant. Et certes, je n'étais pas très au fait des techniques plus anciennes d'images, hein, de la gravure, de choses comme ça. Et c'est vrai que j'y suis moins sensible. Mais j'adore les impressions papier des années même 60. Les journaux étaient conçus différemment, les maquettes étaient faites à la main. Enfin, c'est une texture des images différentes.
Peut-être que vous collectionnez ces textures-là, ces papiers-là. Est-ce que vous avez pu en retrouver adultes
Je sais pas. Oui, j'en ai conservé certains. Je garde certaines choses, mais je suis pas quelqu'un qui aime collectionner en général. J'aime pas trop m'encombrer. Donc bon, j'ai peut-être un magazine comme ci, comme ça, deux, trois vieux jours de France, deux, trois, puis ça me suffit en fait d'en avoir un.
Ouais, mais c'est pas une obsession chez vous.
Non, non, moi je suis pas quelqu'un qui veut posséder les choses, mais les regarder seulement. Voilà.
Vous avez dit que vous êtes resté donc seulement 5 ans aux États-Unis. Vous avez grandi d'abord en Californie avant d'aller à New York, c'est ça?
Oui, mais quand on est bébé,
bon, il y a peu de souvenirs.
Californie, très très peu, très vraiment peu. Très peu. New York, oui, quand même des souvenirs.
Mais quand vous en parlez, vous utilisez souvent le mot de mythe. Vous dites que c'est un peu l'Amérique, votre paradis perdu. Donc ça a été une période très très courte de votre vie, mais qui, j'ai l'impression, vous a quand même énormément marqué, en tout cas marqué votre imaginaire.
Oui, parce que en fait, ce qui est paradoxal, c'est que comme j'ai vécu un arrachement de continents entre deux pays, voilà, c'est pas une histoire de guerre, il y avait pas de, bon, à part un divorce, il y avait pas de drame. Hein, j'avais pas réalisé avant assez récemment que finalement j'ai vécu un exil, même si c'était dans des conditions quand même correctes, mais d'être arraché de son pays si jeune, sans vraiment d'explication, sans le décider. Eh bien, c'est quelque chose quand même de l'ordre de l'exil et du traumatisme. Et donc, je pense que dans mon cerveau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de garder tous mes souvenirs américains le plus fortement possible, en les ruminant et en les installant dans mon esprit pour ne pas les perdre. Et c'est de ça que découle pour moi cette idée de mythe américain. C'est juste cet instinct que j'ai eu de faire ça.
Ça a rejailli après dans vos toiles, dans vos peintures.
Ça a rejailli inconsciemment. Et c'est très drôle parce que j'ai aucune envie d'aller habiter aux États-Unis. C'est pas un pays que j'aime.
Oui, c'est ce que je voulais vous demander.
Non,
là, vous habitez en France.
Ah bah non, mais là,
tout.
Surtout en ce moment. Hein, bon.
Même plus jeune, vous n'avez pas été tentée.
J'aurais bien été tentée de vivre à New York dans les années 80. Mais là, c'était pas possible pour des raisons familiales. Hein. Et en même temps, ça me faisait peur, quelque part. Mon frère l'a fait, mon petit frère qui a 2 ans de moins. Ouais. Il est parti, lui, après, vivre aux États-Unis. Et maintenant, il est revenu en France, il n'y a pas très longtemps. Mais par contre, ce que j'aime, c'est les images. C'est ce qu'on voit des États-Unis, et surtout des années 60-70. Donc, voilà, ce que j'aime, c'est regarder un film de cette époque-là, ou une série télé, ou n'importe quoi. Mais
pas plus.
Pas plus.
Avec votre frère, Jeff, vos parents vous ont laissé quand même pas mal de liberté plus jeune. Ils vous fichaient la paix quand même, j'ai l'impression, on peut dire. Ce qui vous a laissé pas mal de temps pour regarder la télé, des films.
Sauf qu'à la télé, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien entre 15h et 20h, quelque chose comme ça. Il y avait un gros trou dans l'après-midi et le matin aussi. Il n'y avait presque rien. Il y avait 2 chaînes. Enfin.
Par exemple, la série Dallas, dont vous êtes complètement fan, c'est arrivé un peu plus tard.
Ah bah oui, là, j'avais déjà 20 ans. Donc là, c'était de la provoque. C'était le truc le plus nul, le plus kitsch. C'est ça que je vais aimer. C'était plutôt... ça, c'est une attitude punk d'aimer Dallas. Mais non, c'est vrai que j'ai eu de la liberté. Mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. On avait beaucoup de temps de s'ennuyer, d'imaginer. Et ce que j'aimais, c'était faire. J'aimais prendre des ciseaux, de la colle, puis faire un truc, voilà, fabriquer.
Et dessiner, c'était déjà
dessiner,
là?
Dessiner, oui, tout le temps, je dessinais tout le temps. Oui. Et peindre, en fait, j'ai aussi réalisé après que les plus grands moments, c'est dès l'école primaire, quand on nous a mis les gouaches et qu'il fallait peindre, c'était ce que je préférais de tout, de tout, de tout.
De toutes les matières.
Ah bah oui.
Et justement, en parlant de votre peinture, de vos œuvres, est-ce que vous mettez à la peinture tous les jours? Est-ce que vous avez des horaires comme on a des horaires de bureau?
Non, j'ai pas vraiment d'horaire. Je sais que j'aime bien travailler genre une grosse journée. Enfin, j'aime pas travailler comme ça 2 heures par-ci, par-là. Donc si je viens, je sais pas, je vais arriver à l'atelier vers 10 heures. Après, je suis un peu comme Duras qui disait qu'elle pouvait pas écrire si la vaisselle n'était pas faite. Moi, c'est un petit peu pareil. Et la vaisselle, en l'occurrence, c'est plutôt les emails et les choses comme ça. Donc je règle tout ça, les emails, les choses. Et après, quand tout ça c'est fait, je me mets au travail. Et après, une fois que c'est parti, là, bon, je me laisse pas distraire. Mais le plus dur, c'est de s'y mettre, bien souvent. Mais par exemple, vous voyez le grand tableau de Catherine Deneuve, là, qui n'est pas fini. Je me suis bloquée une semaine où je sais que je vais la faire et je vais faire que ça parce que je sais que je vais être dedans et que peut-être qu'il faudra que je dorme à l'atelier. Voilà.
C'est à peu près une semaine de travail là qui vous reste par
oui,
exemple pour
oui,
ce
je pense, ouais.
grand tableau.
Oui, oui.
Okay.
Je suis quelqu'un qui va vite et qui aime bien...
Ne pas rester des mois sur
l'œuvre. Ouais, exactement. Ouais, je suis très impatiente.
Alors, je vais décrire pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre travail, un peu grossièrement ce que vous faites, et puis on rentrera un peu plus en détail après. Vos œuvres, souvent, pas toutes, mais elles sont réputées pour être souvent en grand format. Et vous avez peint beaucoup d'icônes féminines, j'en cite quelques-unes. Vous avez fait Sissi l'impératrice, Elizabeth Taylor, Dalida, Catherine Deneuve, beaucoup. Vous nous avez montré tout à l'heure une toile... en grand format de Catherine Deneuve, et puis Sylvie Vartan, dont vous êtes fan absolue. Est-ce que c'est pareil pour toutes les autres femmes que vous avez peintes? Est-ce que vous partez toujours de femmes que vous admirez comme Sylvie Vartan, ou pas forcément?
Non, pas forcément, et même Sylvie Vartan, je ne suis pas fan de ses chansons.
Ah oui?
Non, ce que j'aime, c'est sa tête, enfin, j'aime son physique, j'aime bien sa personnalité en fait, j'aime bien parce qu'elle a une sorte de côté un petit peu cash. Elle a une personnalité qui me plaît, mais ce que j'aime, c'est Sylvie Vartan en 71, quand elle revient après son accident de voiture et qu'elle a une mèche qui lui couvre l'œil. Voilà, et c'est là que j'ai eu une sorte de choc quand j'étais enfant. Et après, bon, elle était beaucoup à la télévision, elle était très jolie, elle était peut-être même plus jolie avant son accident, mais bon, c'était vraiment voilà, son image quoi, qui m'intéressait. J'écoutais pas sa musique.
Pas plus que ça.
Non, pas du tout, même pas du tout.
Et aujourd'hui, vous connaissez un petit peu sa
discographie? Oh bah oui, j'ai écouté, bien sûr, mais elle aurait pu être comédienne, Sylvie Vartan. Ouais, c'était pareil quoi, pour moi. Bon, pour en venir à mes modèles, non, c'est un petit peu le hasard entre une envie de dire une sorte de message qu'on va pas comprendre tout de suite, bien sûr, et puis une image, et puis envie de peindre un format comme ci, comme ça. Ce qui se passe, c'est que pour peindre, eh ben en fait, c'est dur de peindre. Donc, même si je disais que j'aimais ça quand j'étais petite, bon, après, quand on apprend et quand on connaît, bon, c'est dur. Donc, il faut vraiment qu'on soit motivé. Donc, il faut vraiment un sujet qui vous tienne à cœur. Donc, voilà, je prends quelque chose qui me fait plaisir et que j'ai vraiment envie de peindre. Et donc, c'est ça, en fait, le moteur. Mais après ce postulat-là, eh ben, finalement... on balance dans la partie réalisation. Et là, il faut décider bah, quelle couleur, comment faire.
Enfin,
voilà, c'est juste des choses très, très, très pratiques.
Et pour revenir au sujet, donc, vous peignez beaucoup de portraits de femmes. Au début, vos premières peintures, elles représentaient souvent autre chose, des objets. Vous avez fait toute une série autour des lettres. Aujourd'hui, la figure de la femme revient souvent. Est-ce que vous diriez qu'avec le temps, enfin, plus le temps passe et plus vous aimez peindre les femmes?
C'est-à-dire que je me suis autorisée au bout d'un moment de faire ce que j'avais envie de faire, et ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il faut savoir que, bon, quand j'ai commencé à peindre, là j'ai commencé avec ce que j'avais envie de faire, des portraits. Au début, des portraits assez atroces de mes amis, de ma famille, des commandes, des choses comme ça. Bon, je dis atroce, ça va, c'est ressemblant, mais pour moi c'est pas bien peint. Et puis après, j'avais un groupe de rock, j'étais punk, j'étais tout ça. Donc j'ai été plus un peu dans la caricature... à la fois dans le style et aussi dans la façon de voir les choses. Et après, j'ai été dans des collectifs et ça correspondait à peu près au moment de la figuration libre, pour faire vite fait, avec des grandes peintures à l'acrylique. Et là, le but, c'était plutôt de peindre rapidement des choses qu'on allait coller sur les murs de la ville, de faire... Il n'y avait pas du tout cette idée de belle peinture, mais plutôt une idée de... chose un peu pop qui rompent avec la peinture et l'art très sérieux qu'on avait à ce moment-là dans les galeries, qui était, on va dire, la queue de comète de l'art minimal, l'art conceptuel. Voilà, c'était un peu ça, des choses qui me barbaient un petit peu, que j'ai découvert après avec beaucoup de bonheur. Mais quand j'étais jeune, ça me barbait. Mmh. Et après, quand ma période, disons, avec les collectifs, un petit peu rock, boîte de nuit, s'est achevée, je me suis dit, oh là là, maintenant, il faut que je devienne une artiste sérieuse, alors qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai regardé, bah, c'était l'art conceptuel, c'était tout ça. Mais bon, j'étais quand même qui je suis, donc j'ai fait, il y avait toujours un petit peu d'humour, mais j'ai fait, bon, là, j'ai complètement changé. J'ai fait des choses très différentes, mais en fait, ça m'a permis d'explorer plein de techniques. Mmh. Moi, je vois toujours un lien, les choses quand même sont reliées, mais c'est vrai que tous les deux ans, ça changeait complètement. Donc j'avais un petit peu du mal à trouver une galerie, surtout qu'à bah, l'époque, la peinture vraiment n'intéressait personne. C'était le grand moment de la vidéo, de la photo. Et moi, qui aime peindre, bah, je voulais quand même continuer, malgré tout. Et donc, il a fallu 15 ans à peu près pour que je me dise, bon, alors maintenant, de toute façon... c'est pas grave, j'ai qu'à faire vraiment ce que j'ai envie. Et quand j'ai commencé à penser ça, les choses se sont mises en place. Mmh. Mais il y a eu une grande période où j'ai expérimenté plein de choses sans tellement de succès. J'avais quand même du succès parce que ça plaisait, les tableaux flous, ils plaisaient, j'en vendais. Mais il n'y avait pas le succès critique, il n'y avait pas de musée. Et je n'ai eu une galerie vraiment sérieuse qui s'est bien occupée de moi qu'à partir du moment où j'ai lâché un peu l'affaire finalement.
Parce que trouver une galerie pour les artistes, j'ai l'impression que c'est particulièrement compliqué. Alors pour les artistes peintres, peut-être encore plus. C'est un peu le Graal, non, de réussir à trouver le bon galeriste, bonne personne qui va vous accompagner.
Oui, vous avez lu la biographie écrite par Fabienne Radi qui raconte ça, mais c'était une autre époque. Maintenant, il y a des galeristes qui viennent aux Beaux-Arts de Paris chercher la chair fraîche. À l'époque d'Instagram, les artistes, ils peuvent réussir beaucoup plus vite. Bon, de mon temps, on demandait quand même un peu plus de bouteilles, de sérieux. Et puis moi, je n'étais pas dans les réseaux non plus. Donc, c'était compliqué. J'aurais fait, je pense, des installations, de la vidéo. Peut-être que j'aurais trouvé une galerie. C'était aussi parce que ce que je faisais n'était pas vraiment dans l'air du temps. Et puis, c'était beaucoup plus dur pour les filles à l'époque, hein, quand même. Maintenant, ça va, mais...
Et vous dites qu'il y a eu comme un déblocage, en fait, dans votre vie professionnelle autour de 45 ans.
Voilà.
Enfin, c'est pas à 45 ans
Oui.
Mais c'est là où vous avez trouvé un galeriste, vous êtes devenue prof permanente à l'École des Beaux-Arts de Nancy, c'est ça?
Oui, ça c'était même un peu avant, mais bon, c'est aussi parce que bon, j'ai quand même élevé deux enfants, ça m'a jamais empêché de travailler, mais j'étais pas prise au sérieux. Mmh. Voilà, donc j'ai quand même fait toujours des expos, des choses, mais bon, ça restait un peu frustrant pour moi.
Alors, il y a un autre sujet. Qui revient beaucoup chez vous, ce sont les autoportraits que vous faites. Alors, on vous reconnaît facilement sur ces peintures, avec vos grands yeux bleus. C'est plus facile de se peindre soi-même ou plus difficile?
C'est plus facile, parce qu'on se connaît.
Ouais.
Ah oui, ça va très vite, hein, ça, si j'en fais. J'en ai pas fait tant que ça, des autoportraits. Hein. J'en ai fait quelques-uns.
C'est vrai
que je sais pas pourquoi, mais les gens adorent les autoportraits des artistes. C'est un truc... Je sais pas.
Parce qu'on a l'impression de réussir à les comprendre,
oui,
à les lire.
Oui, il y a un truc comme ça. C'est dommage que j'en ai pas fait quand j'étais plus jeune et plus fraîche. Mais
J'en ai imprimé un. J'ai imprimé certains de vos tableaux, dont un autoportrait de vous que vous avez fait. Alors le titre, c'est Autoportrait en slip.
Au slip.
Au slip, pardon.
Oui.
Je vous laisse le
slip,
commenter.
Bah oui, il va être exposé d'ailleurs. À partir du mois de mai, à la Fondation Van Gogh, cet autoportrait au slip.
Alors, qu'est-ce qu'on...
Parce qu'en slip, ça voudrait dire que je l'aurais mis au bon endroit.
Oui, parce que là, effectivement, vous l'avez mis. Où est-ce que vous l'avez mis?
Je l'ai mis sur ma tête. Je l'ai mis sur ma tête avec chaque trou pour mettre les jambes et comme un trou de lunettes. Enfin, on voit les yeux. Et en même temps, ça cache le bas du visage comme un masque. Et là, il n'y avait pas encore les masques, hein, parce que c'est antérieur au Covid, cet autoportrait au slip.
Et vous vous souvenez dans quel contexte vous l'avez réalisé?
Oui, bien sûr. Je l'ai fait ici, là.
Comment l'idée est venue?
Ben, je sais plus. En fait, j'étais dans une période quand même assez... J'avais envie de faire des peintures assez sexuelles. J'avais envie de faire beaucoup de travailler du blanc dans la matière. Donc, le slip est comme ça. Et je me faisais en vert. Je faisais des filles vertes.
Oui,
et
vous êtes toutes en vert.
Voilà. Donc, ça correspond aussi techniquement à ça. C'est pas que l'idée du slip sur la tête. C'est que, tiens, j'ai envie de me faire en vert avec un truc blanc. Qu'est-ce que je prends? Hop. Donc, j'ai posé avec, c'est pareil, je me regardais dans le miroir. J'en ai fait deux.
Vous en avez fait deux en slip?
Oui, deux au slip.
Au slip, ça va finir par rentrer. Et vous faites aussi, parce que là, vous disiez à l'instant que vous étiez dans une période où vous aviez envie de dessiner des sujets un peu sexuels. Effectivement, il y a pas mal de fesses, de seins qui reviennent dans vos toiles. Et vous dites que vous êtes plus à l'aise de peindre des nus que des personnes habillées.
C'est plus facile, vous n'avez qu'à essayer.
C'est vrai?
Ben oui, c'est plus facile et c'est plus agréable. Parce que de peindre des vêtements, il y a des plis, il y a des...
Ouais, voilà. Des textures.
Alors
qui
que
sont
bon, quand on a après dessiné, on a appris l'anatomie, on a fait du croquis de nu. Et les corps, ils ont tous une personnalité et c'est intéressant d'arriver à le faire en peinture. Alors que des corps habillés, ben, on voit moins la personnalité de la personne, je trouve.
Et toujours pour continuer sur la peinture, vous dites souvent que ce qui vous intéresse, ce n'est pas le sujet, mais la technique. Et c'est vrai que vous êtes connu pour explorer différentes techniques de peinture, notamment des techniques qui ne sont pas forcément adaptées à la peinture. Par exemple, vous peignez beaucoup avec du fluo.
Bah, le fluo aussi quand même, mais c'est assez difficile. Mais surtout le phosphorescent. Ça, ce sont des pigments très difficiles à manier.
Comment vous avez appris à dessiner? Parce que vos œuvres, les dessins que vous faites sont assez figuratifs, très réalistes. La technique, vous l'avez apprise en autodidacte à l'école, parce que vous n'êtes pas passé par des écoles.
En fait, j'ai fait un an de prépa. J'ai fait une prépa qui s'appelait Penningen, qui était une prépa payante à Paris, assez chic. Ma mère m'a mise là quand, après le lycée, je ne voulais plus rien faire. En fait, je ne voulais surtout pas me lever le matin. Mais elle a eu la bonne idée de m'inscrire là, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, mais j'ai adoré. Toute la journée à dessiner, à peindre, enfin, même si c'était de la publicité, faire des lettres, enfin, j'ai vraiment adoré. Bon, j'ai passé tous les concours que j'ai eus. Bon,
vous avez eu quoi comme concours?
Art déco, Beaux-Arts, et puis...
Donc vous les avez eus, mais vous n'y êtes pas allé.
Bon, j'ai dit, oh, ben, je vais faire les Arts déco, parce que c'était celui qui était le plus difficile à l'époque, le plus bon côté. Mais quand je suis arrivée aux Arts déco, mais alors, déception totale, on ne travaillait pas, on ne dessinait pas, on ne faisait que discuter. Et donc, je m'ennuyais, donc j'ai laissé tomber, voilà.
Vous avez fini la première année quand même?
Non, je n'ai pas fini, j'ai abandonné. Donc je me suis fait évidemment virer parce que je n'avais pas mes examens, etc. J'allais quand même dans les cours de descriptive et perspective qui étaient des cours de dessin très, très durs et très compliqués. Ça me plaisait. Et puis finalement, après, je me suis inscrite aux Beaux-Arts pour avoir la sécu pendant 6 ans. Et j'avais trouvé un chef d'atelier très gentil qui s'appelait Vincent Guinberg, qui était un peintre un peu... Bon, j'aurais bien aimé aller chez l'académicien Velikovitch, mais il n'a pas voulu de moi. Guignebert a bien voulu de moi, mais j'ai pas mis les pieds. Je crois que j'étais à un cours ou deux d'histoire de l'art comme ça. Non, j'y allais pas du tout. Mais je suis bête parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que je pense que justement, si ça commençait à marcher à 45 ans, c'est sans doute parce que j'ai perdu beaucoup de temps.
Mais perdu du temps dans quel sens? Sur la technique, par exemple?
Oui, sur la technique, parce que je pense qu'on apprend plus vite. Je vois les étudiants, ça monte plus vite s'il y a quelqu'un qui leur donne des conseils. Moi, il n'y avait personne. Donc, en fait, toutes les choses, sauf quand j'étais avec les Ripoulins et qu'on avait une interaction, mais quand j'étais seule...
Les Ripoulins, c'est le collectif auquel vous avez appartenu pendant quelques années.
Voilà, des années 80. Mais sinon, toute seule, on avance, mais on avance plus lentement.
Et vous avez des manuels quand même
Ah oui, j'avais quelques manuels. Non, mais c'était quelques manuels de technique de la peinture pour les inductions et tout ça. Mais bon, mais c'est vrai, je pense que ça aurait été bien quand même que j'ai des maîtres ou des maîtresses d'atelier qui m'expliquent. Et puis surtout l'histoire de l'art, la philosophie, tout ça. Mais j'étais évidemment à regarder Dallas, ça n'allait pas bien loin. Donc, j'ai manqué vraiment de culture. Et après, toute ma culture, je l'ai dû la refaire toute seule. Bon, au bout d'un moment, je me suis abonnée à Art Press, à Flash Art, et je lisais tout du début à la fin. Donc, ça m'a fait une bonne petite culture en art contemporain. Et après, j'ai dû refaire des études. Parce que, bon, après, j'ai voulu enseigner. Et là, c'est pas qu'il fallait. J'aurais pu me passer le diplôme, mais quand même, pour me sentir sûre de moi, j'ai passé une VAE. Ça, c'est un dispositif très bien, validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire qu'on m'a donné une maîtrise juste sur ce que j'ai fait en art. Il fallait que je fasse un petit mémoire, etc. à l'Université Paris 8. Et après, une femme formidable, Claire Fagnard, qui était la prof de philo, une femme, une féministe, enfin ça je le dis parce que c'est vraiment important, m'a dit « Nina, la maîtrise c'est très bien, mais il faut un master dans la vie ». Donc là, il te faut juste une année à la fac, c'est rien, c'est deux cours de philo, et puis tu feras un petit mémoire, et voilà.
Et là, vous aviez quel âge à peu près ?
Et là, j'avais 46, 45.
Et c'était pas trop dur de reprendre une année de master ?
Mais non.
Non ?
J'allais en voiture le samedi matin, un cours de philo, on était trois, donc c'était très confortable. Et puis l'autre cours, c'était son cours à elle, bon, je prenais mes notes. J'ai rien retenu, hein, parce que moi, Hume et Humboldt et je sais plus tous les philosophes, Spinoza, tout ça, j'ai rien retenu.
Mais vous l'avez eu.
Je l'ai, voilà. Et non, mais j'ai eu avec mention très bien à l'unanimité du jury. Non, après d'écrire le mémoire, ça a été passionnant. J'ai adoré. J'ai fait un mémoire sur Picabia, Richter, deux artistes au style dissemblable, parce que moi, à cette époque-là, justement. Mon idée de faire ce qui me plaisait, c'était aussi de travailler dans des styles semblables. Donc, je recherchais un peu d'autres artistes qui avaient fait ça. Et j'ai approfondi la question théoriquement. Et c'était vraiment bien. Et c'était très bien pour moi de faire ça. Et je pense que c'était même mieux pour moi de faire des études à cet âge-là qu'à 20 ans.
Pourquoi ? Parce que vous étiez plus tout simplement prédisposé à écouter.
Plus mûr, plus motivé. Je pense que d'ailleurs, entre 15 et 25 ans, je pense que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudrait faire les études. À ce moment-là, il faut vivre et faire les études après.
Côté famille, je crois que vous aviez des peintres. C'était le troisième mari de votre grand-mère qui était peintre, Georges Breuil.
Exactement.
Alors, oui. C'est votre grand-père ou pas ? Parce que j'ai lu que c'était le
troisième... Dans ma famille, c'est compliqué. Il y a eu des mariages, beaucoup dans tous les sens, surtout le côté français. Là, c'était vraiment...
C'était le troisième mari de
votre
grand-mère. Oui,
le troisième mari de ma grand-mère maternelle était un petit maître de l'abstraction lyrique rouennais, Georges Breuil.
Donc, voilà. C'est pas votre style, a priori.
Ah, non, mais par contre... Il était très gentil, il me laissait le regarder travailler, même mettre des fois les mains là. Je me rappelle vraiment une fois où j'avais mis la main dans des peintures à l'huile et j'avais une sorte de plaisir comme ça physique. Après, j'avais dû me nettoyer au White Spirit, j'avais adoré. Mais bon, c'était drôle parce que lui, il ne jurait que par l'abstraction. Pour lui, la figuration, c'était complètement tabou, etc.
Vous, là, l'abstraction, c'est quelque chose qui vous a parlé à un moment donné ?
Ah, j'admire beaucoup la peinture abstraite. Je rêverais de pouvoir en faire, mais... Je pense que je ne suis pas assez élevée. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une forme d'ascèse, etc. Et de l'autre côté, contraste total, la mère de mon père, donc ma grand-mère maternelle, qui, pour le coup, là, était très proche de moi, une genre de... On imagine la Castafiore, physiquement, voilà, avec des gros seins, voilà, une Américaine très chic.
Donc, texane,
texane,
elle aussi.
Voilà, qui avait de l'argent, qui m'emmenait m'acheter des habits et tout ça. Elle faisait de la peinture en amateur. Elle adorait la peinture, elle avait un atelier, elle peignait des portraits, des paysages, des bouquets de fleurs. Tout le contraire de Georges Breuil, donc Doris Childress. Ah non, c'était une personne incroyable. Et elle, très tôt, elle m'a mis des couleurs dans les mains. Elle m'a dit, allez, tu peins. Elle m'a fait poser, enfin voilà.
Oui, donc en fait, vous êtes rentrée assez tôt. Enfin, vous avez côtoyé des peintres durant votre enfance ?
Tout le temps. Et pour moi, la peinture, c'était comme... je sais pas, c'est comme quand on est dans une famille de paysans, c'est comme travailler à la ferme, c'est pareil, quoi.
Mais pourtant,
naturel.
Vous y êtes venu quand même assez tard, parce qu'avant de vous mettre à peindre, vous avez été dans un groupe
non,
de
non,
musique.
Pas du tout, c'était en même temps.
C'était en même temps, tout ça.
Non, mais j'ai toujours aimé dessiner, peindre à l'école. Et après, je n'ai jamais cessé. Et quand j'étais dans mon groupe punk, je disais que moi, j'étais peintre. Hein. Je disais, moi, je fais de la peinture... Et le groupe, c'est mon hobby.
Oui, vous savez que ça n'allait pas durer.
Mais bien sûr, c'était pour rigoler.
Et les chansons que vous avez composées, créées avec ce groupe, on peut les écouter aujourd'hui ? Elles sont sur YouTube.
Oui, il y a des choses sur YouTube.
J'ai pas eu l'occasion de les écouter encore.
Je vous souhaite bon courage.
Ah, c'est vrai, aujourd'hui, vous...
Non, c'est atroce. C'est très, très...
Vous reniez cette... Enfin, pas renier,
mais... Non, mais c'est pas très agréable. C'est très couinant parce qu'il y avait un saxophone, un orgue. Moi, je hurle. C'est pas très agréable, c'est très... Mais c'est rigolo en même temps, il y a un coup de...
Oui, parce que c'est vrai que vous avez eu plusieurs périodes dans votre vie. Vous avez une période baba cool, puis punk, qui a duré quelques années. Et puis, il y a quelques temps, vous vous êtes découvert une autre passion pour l'opéra.
Oui, alors bon, on va dire, si on veut faire tout bien dans l'ordre, les passions, il y a eu
effectivement. Il y en a eu beaucoup.
Baba, j'étais pas vraiment, je subissais, je n'aimais pas. Donc quand les punks sont arrivés, j'ai fait youpi, donc hop, punk pendant, je sais pas, on va dire 5 ans à la louche. Ouais. Après, j'étais genre un peu, bon, une jeune noctambule parisienne, on va dire, grosso modo. Et l'opéra est arrivé justement quand j'avais mes enfants petits. Mm-hmm. Et j'adorais l'opéra parce que ça me transportait émotionnellement. C'était vraiment une révélation. Et c'est vrai que l'art lyrique, c'est quelque chose qui peut vous transporter. Il y a vraiment des fans, quoi. Il y a des aficionados. Donc, j'ai été un moment dans ce groupe où j'ai fait la queue devant l'Opéra Bastille dès 5h du matin pour l'ouverture des... Voilà, si j'avais une semaine sans aller à l'opéra, c'était vraiment dur physiquement, du manque. J'écoutais de l'opéra toute la journée.
Et c'est pas difficile quand on n'a pas été éduqué à cette musique-là, l'opéra de manière générale, quand on n'a pas d'éducation précise.
J'ai quand même fait du piano, j'adorais la musique. Quand j'étais petite, j'écoutais Tchaïkovski en pleurant dans mon lit.
J'étais très sensible à la musique. Vous aviez une petite base.
Oui, j'avais une base, mais par contre, je dois dire que l'opéra, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas. J'avais l'impression qu'on me criait dessus. Il ne faut pas le prendre comme ça, il faut se laisser emporter par la voix, un peu comme dans un manège. Et là, vous verrez, il va se passer un truc.
Une autre passion qui est arrivée un peu sur le tard, c'est la natation.
Oui, alors pas tant que ça sur le tard, parce que j'ai appris avec une amie à nager le crawl, parce que c'est ça qui compte quand même, vers 25 ans. J'ai toujours aimé l'eau.
Oui, c'est pas si tard. Oui.
Et quand j'ai arrêté tous mes excès, le sport m'a beaucoup aidée à me sortir de tout ça, et notamment la natation. Et aussi, après, j'ai eu un accident de parapente quand j'avais 30 ans.
Assez grave.
Assez grave, et qui m'a empêchée de faire de la course à pied. Donc, la natation est devenue la principale source d'endorphines sportives. Et cette année, je suis dans le groupe compétition.
Et du coup, ça vous oblige d'y aller souvent, non ?
Je vais à peu près 4 fois par semaine à la piscine.
Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est très souvent.
Je fais de la compétition aussi, ça, c'est très bizarre. Bon, alors évidemment, à mon âge, on ne va pas très vite. Mais il y a de moins en moins de candidats, donc je gagne plein de médailles. C'est très drôle.
Et oui, c'est ça, voilà. Vous êtes médaillée de natation.
Je suis championne de France N2, bon, deuxième catégorie, c'est pas non plus... C'est surtout ce que j'aime dans le sport, comme ça, de compétition et de haut niveau. Non, pas de haut niveau, mais de collectif. C'est que déjà, c'est un milieu complètement différent. On me connaît pas, je suis tranquille. Je suis juste une nageuse comme les autres. Et puis, il n'y a pas de subjectivité. C'est le chronomètre. Et ça, pour la tête, ça fait vraiment du bien.
Donc aujourd'hui, vous êtes plus fière de vos médailles en natation ou des médailles professionnelles que vous avez eues, parce que vous êtes médaillée de la Légion d'honneur ?
La natation, quand même, pas mal.
Ça vous fait plus plaisir ?
Disons, je sais que c'est mérité, quoi, parce que j'ai fait l'effort. Par exemple, quand j'ai eu la Légion d'honneur, on m'a fait comprendre qu'il fallait une femme d'origine étrangère. Donc, ils m'avaient trouvé moi.
Ah oui.
Vous voyez ? Bon.
Comment ça s'est passé pour l'Académie des Beaux-Arts ? Parce que là, vous parliez un instant des rencontres qui peuvent aboutir à des bonnes surprises professionnelles. L'Académie des Beaux-Arts, ça s'est fait aussi par une rencontre particulière ?
Pas du tout, parce que en fait, je ne connaissais pas l'Académie avant qu'on m'en parle et qu'on me demande de venir. Mmh. Et tout ce que je connaissais, c'était au musée de Marmottan, les épées qui sont dans les vitrines. Là.
Ça, les épées d'académicien.
Ça m'avait beaucoup amusé. Je me dis, oh, ça c'est super et tout. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui fait envie au départ. Ouais. C'est l'épée, l'habit. On se rend pas compte de tout ce que ça représente.
C'est vrai que ça demande une certaine implication depuis que vous y êtes.
C'est pas une médaille, l'académie. L'académie, c'est une fonction.
Oui, et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller regarder toutes les actions qui sont faites par l'Académie des Beaux-Arts. Il y en a plein et le programme est vraiment très dense. Mais à côté de ces interventions là-bas, à l'académie, vous continuez évidemment à peindre. Est-ce que vous avez une expo, une exposition, une actualité à mettre en avant ?
Eh bien, oui, en ce moment, j'ai un autoportrait. Ceux qui veulent voir un autoportrait en vrai, il y en a un qui est exposé au Petit Palais. Mm-hmm. Une expo qui vient de commencer, qui s'appelle « Visage d'artiste », dont la commissaire est Sixtine de Saint-Léger. Quand ils ont cherché des portraits d'artistes, les artistes qui avaient peint ces portraits étaient que des hommes. Donc, ils ont rééquilibré avec de l'art contemporain, mais exclusivement féminin.
Et c'est jusqu'au 19 juillet 2026. Je vous ai demandé, avant de commencer l'interview, de réfléchir à une chanson pour conclure l'émission. Est-ce que vous avez trouvé ?
Ah là là, alors attendez, je vais réfléchir. Et parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps une très belle chanson de Paul Simon qui est à la fin d'un film et qui s'appelle American Legend ou un truc comme ça.
Je crois que c'est American Tune.
Mais elle est tellement belle cette chanson. And I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Ah, but it's all right, it's all right, for we've lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help but wonder what's gone wrong.
Les podcasts de l'Institut de France.